Vous écoutez, on lit pour vous.
Comment réduire l'itinérance? Un dossier de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Personne ne prétend avoir la solution pour régler la crise de l'itinérance. Réunis à Québec pendant 3 jours, à l'occasion des 4e États généraux sur l'itinérance le mois dernier, ceux qui sont en première ligne ont mis de l'avant une série de solutions à petite échelle qui font une différence. Notre chroniqueuse en rapporte 4 parmi les plus inspirantes. S'unir pour briser le tabou. Fin 2022, rien ne va plus en matière d'itinérance à Saint-Jérôme. Les besoins explosent au point où les ressources, incapables de répondre à la demande, en viennent à se nuire mutuellement. La crise est telle qu'elle force tout le monde à casser le moule. Récit d'une petite révolution qui a produit de beaux résultats. À l'automne 2022, la ville de Saint-Jérôme a interdit la construction d'abris temporaires et l'installation de tentes, un règlement contesté par la clinique juridique itinérante et qui est actuellement devant les tribunaux. Depuis, la ville a modifié son règlement pour permettre des tentes dans un espace déterminé, la nuit seulement. Cela dit, l'approche adoptée dans la MRC Rivière-du-Nord et plus particulièrement à Saint-Jérôme est citée en exemple. Sous l'administration précédente, il était impossible de prononcer le mot « itinérance ». C'était tabou, a expliqué Louis Rousseau, directeur des programmes santé mentale, dépendance et services psychosociaux généraux pour adultes du CIS des Laurentides. Monsieur Rousseau était un des 4 intervenants invités à prendre la parole dans le cadre des États généraux sur l'itinérance qui ont eu lieu à Québec fin novembre 2024. Ses collègues et lui ont expliqué la démarche de cette ville des Laurentides pour faire face à la crise, une approche basée sur l'intersectionnalité. En 2018, Saint-Jérôme comptait 168 personnes en situation d'itinérance. 4 ans plus tard, le nombre était passé à 434. Or, les groupes communautaires en place étaient dépassés par la situation. Il y avait 3 organismes et 3 visions différentes, se souvient Louis Rousseau. La chicane était pognée et les usagers étaient instrumentalisés. Squat, incendie, drogue, proxénétisme, les résidents ne se sentaient plus en sécurité et la ville était sous pression. Avec plus de 200 interventions policières par mois, le statu quo n'était plus possible. C'était l'anarchie, observe Sylvain Pagé, adjoint au directeur général stratégie à la ville de Saint-Jérôme. De petits miracles. En décembre 2021, le CIS communique avec la HUTE, un organisme communautaire installé à Terrebonne. Nous avions fait appel à leur expertise pour accompagner les groupes communautaires en place, explique Louis Rousseau. Finalement, c'est la HUTE qui a pris le relais et qui a fait en quelques semaines ce qui, normalement, prend des années, bâtir une nouvelle ressource. Pour mobiliser la communauté de Saint-Jérôme, il fallait susciter l'adhésion. On a donc invité tout le monde, préfets, communautés d'affaires, élus, etc., à visiter la HUTE à Terrebonne pour comprendre comment ça fonctionnait, raconte le directeur général de l'organisme, François Savoie. Pour construire une nouvelle ressource en itinérance de 56 places avec des services, il fallait amasser 7 millions. Quand on a signé le contrat avec l'entrepreneur, on n'avait pas un sou, se souvient en riant Louis Rousseau du CIS. La Caisse populaire contribue à hauteur de 1,2 million le plus grand don dans l'histoire des Laurentides. Autre petit miracle, le permis est délivré en l'espace de 6 mois, un délai impensable en temps normal. L'adhésion de la haute direction permet de régler bien des problèmes, note Sylvain Paget. Les intervenants se rencontrent tous les mardis matins pour planifier et coordonner le projet et aplanir les obstacles. La clé? Travailler ensemble autour d'un même objectif. En parallèle, la ville intensifie la communication avec la population, affirme Sylvain Paget. On a fait du porte-à-porte. On informait les gens au fur et à mesure de l'évolution du projet. La crise aura été une opportunité, car elle nous a forcés à nous mobiliser, affirme Louis Rousseau du CIS. Si ça va mal, tant mieux. C'est une occasion de changement. Vous écoutez « Comment réduire l'itinérance », un dossier de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Pas parfait, mais beaucoup mieux. Cette crise aura en outre forcé les intervenants à organiser les services autrement sur le terrain. Au CIS, on a détaché les ressources consacrées à l'itinérance de celles de la dépendance et on a formé l'équipe Espoir. Des médecins et des psychiatres travaillent dans la rue, ce qui était impensable avant, assure Louis Rousseau. Cette équipe collabore avec l'escouade pacifique, composée de 4 agents et d'un sergent qui travaille eux aussi sur le terrain. Aujourd'hui, il y a une meilleure coordination des services qui se traduit par une amélioration de la cohabitation, selon Louis Rousseau. Bien sûr, tout n'est pas réglé. Reste que les résidents de Saint-Jérôme voient des gens s'en sortir. Les questions sur l'itinérance sont devenues rarissimes aux assemblées du Conseil de ville, observe Sylvain Paget. Ce n'est pas parfait, mais c'est beaucoup mieux. On peut dire que l'expertise de François Savoie, directeur général de la Hutte, a compté pour beaucoup. Ancien gestionnaire du CIUS de la Naudière, il dirige l'organisme communautaire depuis 6 ans. J'ai été celui qui a donné et demandé de l'argent, note l'homme qui travaille en itinérance depuis 30 ans. La confiance est au cœur de ce modèle, affirme Louis Rousseau. On a travaillé en gang et aujourd'hui, on peut dire que la situation est inversée. C'est la ville qui demande à la Hutte « Alors, quels sont vos projets à venir ?» Faire l'école de rue pour ne pas y vivre. Nicolas Leclerc est un jeune homme neurodivergent qui a connu l'itinérance. Aujourd'hui, il étudie en éducation spécialisée au Cégep du Vieux-Montréal. S'il s'est rendu jusque-là, c'est notamment grâce à l'école de rue qui lui a permis de terminer son secondaire. Une approche qui fait des petits partout au Québec. On compte aujourd'hui 9 écoles de rue dans la province. Une formule qui permet aux jeunes de plus de 16 ans qui sont en situation d'itinérance ou à risque de l'être, de raccrocher. Ce sont des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise dans une école normale, explique Nathalie Bergeron, directrice du regroupement des écoles de la rue accréditées du Québec, RERAC. Certains n'ont pas d'adresse, d'autres consomment ou ont un chien, ou sont désorganisés. Créé par le père Emmett Jones, bien connu sous le pseudonyme Pops, et son organisme dans la rue, la première école de rue a vu le jour à la fin des années 1990. Depuis le début des années 2000, on a vu apparaître une nouvelle clientèle, explique Nathalie Bergeron, qui prenait la parole dans le cadre des États généraux sur l'itinérance à Québec. Et elle ajoute « On a vu apparaître des nouveaux arrivants, des réfugiés, des gens qui vivent de l'itinérance cachée. » Un exemple. à la maison Sam X, boulevard Léger à Montréal-Nord, la file commence à se former vers 7 heures pour les cours de francisation. La scolarisation dans les écoles de rue se fait sur une base volontaire et l'enseignement n'est pas axé sur la performance. On va au rythme de la personne, précise Madame Bergeron. Les enseignants sont des bénévoles ou des retraités payés par le centre de services scolaires. Ils enseignent à une vingtaine de jeunes dont l'âge moyen se situe autour de 24 ans. L'étudiant suit entre 8 et 18 heures de cours par semaine selon ses capacités. Ce ne sont pas seulement des milieux scolaires, ajoute Nathalie Bergeron. On y offre aussi le repas du midi, ainsi qu'un accompagnement dans différentes démarches, et tout est gratuit. Les résultats sont au rendez-vous si on se fie aux statistiques compilées par le RERAC, 1363 inscriptions pour l'année 2023-2024, avec un taux de réussite entre 70 et 90%. Épreuve que cette approche inspire, on compte actuellement 5 ou 6 projets d'écoles de rue à travers le Québec. Vous écoutez « Comment réduire l'itinérance », un dossier de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. Je suis passée par là. Je te comprends. Je suis passée par là. Cette affirmation, les pères aidants qui travaillent au sein de la clinique SPOT à Québec l'ont prononcé souvent. Cette clinique communautaire de santé et d'enseignement qui aide les gens en situation de marginalisation a placé la père aidance au cœur de son modèle de soins. Les pères aidants font partie de l'équipe et participent aux réunions avec les intervenants. J'interviens auprès de gens qui me ressemblent, explique Ariane Boisvert, qui fait partie des 3 pères aidants qui ont expliqué leur travail dans le cadre d'un atelier présenté aux États généraux sur l'itinérance le mois dernier. Le recours aux pères aidants repose sur la reconnaissance du savoir expérientiel, un savoir qui ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Il faut savoir intégrer ces savoirs, explique Isabelle Mercure, coordonnatrice de l'enseignement au sein de l'organisme. Et, poursuit-elle, parfois, ça peut vouloir dire accompagner quelqu'un jusqu'à son rendez-vous à l'hôpital. Un des objectifs est d'éviter le phénomène des portes tournantes avec notre clientèle. Le père aidant fait aussi le lien entre la personne marginalisée et les différents professionnels croisés sur sa route. Je peux traduire les codes de la rue lors d'un rendez-vous avec le médecin de famille, explique Ariane Boisvert. Les professionnels de la santé leur font de plus en plus confiance, note Isabelle Mercure. Des limites à imposer. À travers sa pratique, le père aidant doit apprendre à se protéger. Pour y arriver, il faut avoir du recul sur son vécu, note Maxime Robert, ancien usager de SPOT, qui y travaille aujourd'hui comme père aidant. Alors qu'on apprend aux intervenants à ne pas révéler trop d'eux-mêmes pour se protéger, les pères aidants puisent à même leur vie pour accompagner les autres. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas de code de déontologie qu'on n'a pas d'éthique, souligne Ariane Boisvert. On apprend, nous aussi, à mettre nos limites. En travail social, on nous met en garde de ne pas trop en révéler, d'établir une frontière, renchérit Isabelle Mercure. Mais la pratique de père aidance percole auprès des professionnels parce que ça marche. Reste maintenant à reconnaître la valeur de ce travail non conventionnel. Le père aidant, c'est souvent du cheap labor. C'est la seule personne non payée ou moins payée autour de la table, note Cathy Bordelot, collègue d'Ariane et de Maxime. Il faut reconnaître ce travail à sa juste valeur. le filet tissé serré de Val d'Or. En mai 2023, la mairesse de Val d'Or, Céline Brindamour, lançait un appel à l'aide au gouvernement Legault. La cohabitation avec la population itinérante était devenue critique dans la petite ville d'environ 32 000 habitants. La solution? Arrêter de travailler en silo. Plus d'un an plus tard, des représentants des différents organismes de cette communauté de l'Abitibi-Témiscamingue sont venus expliquer comment ils ont réussi à traverser la crise qui a fait la manchette des grands médias à travers la province. La clé? Asseoir tout le monde autour d'une même table. Ça semble simple, mais ça ne l'est pas toujours. D'autant plus que Val d'Or a une particularité que d'autres villes québécoises n'ont pas, une forte représentation de personnes itinérantes issues des communautés autochtones voisines. Depuis 2017, la région s'est dotée d'une police mixte, le poste de police communautaire mixte autochtone de Val d'Or, PPCMA. L'équipe mixte d'intervention, policiers et intervenants communautaires, EMIPIC, fait aussi partie de ceux et celles qui ont pris le problème de l'itinérance à bras-le-corps. Je le dis à mes policiers, ici, tu vas travailler différemment, lance Julie Bouvier, responsable de poste PPCMA. Durant l'été qui a suivi le cri du cœur de la mairesse, plusieurs petites choses ont été mises en place, explique Paul-Antoine Martel, agent de liaison et relations avec les milieux de la ville de Val-d'Or. Il y a eu l'installation de toilettes chimiques, de l'animation au centre-ville, bref, tout ce qui pouvait aider le vivre ensemble et rehausser le sentiment de sécurité, la propreté et la salubrité. Cela a fait baisser la tension. Il fallait aussi s'attaquer aux préjugés à l'endroit de la population itinérante. L'organisme communautaire La Piaule a acheté la sandwicherie qui a été transformée en organisme d'intégration sociale. Grâce au programme Travail alternatif payé à la journée, tapage, une centaine de personnes a pu travailler. Les commentaires sur la page Facebook de la ville sont tous positifs, observe Paul-Antoine Martel. Ce programme a permis de changer le regard de la communauté sur les personnes en situation d'itinérance. Le programme coûte toutefois cher et n'est pas encore reconnu par le ministère. Vous écoutez Comment réduire l'itinérance, un dossier de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024 dans la presse. La situation s'est améliorée. Comme bien des villes québécoises, Val-d'Or est aux prises avec le phénomène des campements. Et ce n'est pas par manque de place à La Piaule, mais bien par choix. Certaines personnes choisissent la marginalité. Cela dit, les intervenants de Val-d'Or ne voient pas ce choix comme une fatalité. Nous avons accompagné un monsieur qui était itinérant depuis 25 ans, raconte Antoine Saint-Germain, spécialiste en activité clinique en itinérance au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. Tout le monde se disait, lui, il ne pourra jamais vivre en appartement. Or, il habite le château de Marie-Ève, un projet d'hébergement accompagné de services et piloté par La Piaule depuis un an. On le sait, les miracles n'existent pas. Si le modèle de Val-d'Or donne de bons résultats, c'est parce que des gens ont accepté de faire les choses différemment. Comme les médecins et les psychiatres, qui acceptent de travailler dans la rue et d'aller à la rencontre de la clientèle itinérante. Un psychiatre m'a déjà dit que ce ne serait jamais possible, et pourtant, on l'a fait, observe Antoine Saint-Germain. Aujourd'hui, la clinique de rue permet d'offrir des services à des gens qui n'en demanderaient pas en temps normal. Le secret? De la patience. Monsieur Saint-Germain rappelle que ça peut prendre 2 ans à créer des liens avant qu'une personne nous dise « J'aurais peut-être besoin de quelque chose pour m'aider à mieux dormir. » L'approche de Waldorf repose sur le travail d'équipe, une communication constante et des intervenants collés aux besoins du terrain qu'ils suivent de très près. Nos mailles sont tissées très serrées, souligne Paul-Antoine Martel. On a donné un coup de barre et aujourd'hui, on peut dire que la situation s'est améliorée. L'approche de Waldorf a été adoptée par d'autres villes de la région et même Montréal s'est inspirée de cette façon décloisonnée de travailler. Quand la crise a éclaté, on pensait que Waldorf était un cas unique, note Christine Francoeur, conseillère cadre en itinérance au CIS de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est juste arrivé 2 semaines avant le reste du Québec. C'était « Comment réduire l'itinérance », un dossier de Nathalie Collard, paru le 15 décembre 2024, dans la presse.
De mauvais pneus ont coûté la vie à 28 Québécois depuis 2021. Un texte d'Amélie Pineda paru le 10 décembre 2024 dans Le Devoir. Depuis 2022, 28 personnes ont perdu la vie sur les routes du Québec parce que leur véhicule était muni de pneus non conformes ou trop usés, selon une compilation effectuée par Le Devoir. Les corps de police appellent à la prudence et mènent des opérations pour cibler les automobilistes à risque. Une analyse des rapports de coroner déposés depuis 2021 montre que la négligence dans l'entretien d'un véhicule, parfois cumulée à d'autres facteurs, comme de mauvaises conditions météo, est la cause première des collisions qui ont mené à ces 28 décès. Le choix de conduire dans certaines conditions demeure un choix individuel, mais ce choix peut s'avérer lourd de conséquences, souligne la coroner Pascale Boulay dans son rapport sur le décès d'un conducteur de 38 ans survenu en février 2021 à Casabazois, en Outaouais. L'accident s'est produit en plein après-midi par une journée de tempête hivernale. L'usure des pneus a joué un rôle significatif dans le contexte des conditions de route enneigées et glissantes, écrit la coroner Boulay. Le véhicule était chaussé de pneus d'hiver usés de 11 ans, ce qui les rendait trop durs. La durée maximale d'un pneu, même en bonne condition, est de manière générale 6 ans, souligne-t-elle. 2 coronaires ont également formulé des recommandations à la Société de l'assurance automobile du Québec, SAAC, et au corps de police pour intensifier la sensibilisation au risque de circuler avec des pneus non conformes. Il faut continuer à intégrer un message sur l'importance de rouler avec un véhicule en bon état, muni de bons pneus, d'usure égale et sur les risques de perte de contrôle sur une chaussée mouillée ou glissante et que ce message soit repris notamment par toutes les écoles de conduite automobile, écrit la coroner Marie Pinault dans son rapport sur le décès d'un couple de l'Outaouais survenu en janvier 2023. Cet accident est survenu en début de soirée, alors que le couple était en route pour s'acheter à manger. La présence de glace noire aurait fait déraper le véhicule de la conductrice. L'auto était munie de pneus 4 saisons qui étaient extrêmement usés et non conformes. La profondeur des rainures de 2 d'entre eux était nulle à 0 mm. Hors de vue, hors de l'esprit. Il faut que les conducteurs comprennent que l'état de leurs pneus peut faire une différence entre éviter une collision ou avoir un accident, où on a des blessés ou même des décès, souligne Michaël Brochu, conseiller à la sécurité routière du service de police de la ville de Montréal, SPVM. Au Québec, un véhicule doit obligatoirement être chaussé de pneus d'hiver du 1er décembre au 15 mars. Une pénalité de 200 $ à 300 $ est prévue pour les conductrices et conducteurs qui ne respectent pas la réglementation. Début décembre, 292 automobilistes montréalais ont d'ailleurs reçu une amende pour avoir conduit leur véhicule avec des pneus non conformes ou trop usés. Les conducteurs pris en défaut lors de cette opération de contrôle ont reçu une amende totale de 322 $. Une opération similaire a été menée à Gatineau, où, en seulement une heure et demie, les policiers ont remis 37 constats d'infraction pour des véhicules non équipés de pneus d'hiver et 5 autres pour des pneus d'hiver non conformes. Les pneus, c'est l'un des équipements que les automobilistes négligent de vérifier. Si notre pare-brise est endommagé ou encore si nos essuie-glaces ne fonctionnent pas bien, c'est difficile à manquer parce que c'est dans notre champ de vision. Pourtant, la conduite du véhicule repose sur l'état de nos 4 pneus, note le policier Michael Brochu. Des contrôles routiers semblables sont à venir à Laval et à Longueuil, ont confirmé les corps de police municipaux. Le marché du pneu usagé. L'agent Brochu souligne que plusieurs automobilistes ont tendance à préserver leur véhicule plus longtemps, mais rappelle que conduire une auto, ça vient avec une responsabilité. Une vieille auto nécessite un entretien tout aussi rigoureux qu'un véhicule de l'année, renchérit de son côté Jess Caron, expert automobile à CAA Québec. Et alors que les sites comme Marketplace ou Kijiji regorgent d'annonces de pneus d'occasion, M. Caron insiste sur l'importance de bien les scruter avant d'en faire l'acquisition. Les pneus d'occasion, ça peut être un couteau à double tranchant, met en garde l'expert automobile. Ça peut être un moyen d'économiser de l'argent parce qu'on ne peut pas nier que le prix des pneus a énormément augmenté dans les dernières années. Lorsqu'un automobiliste a un budget serré, il va avoir tendance à se diriger vers des pneus d'occasion. C'est donc vraiment important de faire un examen visuel et de mesurer l'usure, explique-t-il. Il rappelle que l'année de fabrication est inscrite sur tous les pneus. Généralement, un pneu de qualité et bien entreposé peut avoir une durée de vie de 10 ans. En outre, plutôt que d'utiliser le truc classique de la pièce de 25 sous pour mesurer la profondeur des rainures, il recommande l'achat d'une jauge de profondeur certifiée, vendue à moins de 10 $ dans plusieurs quincailleries, magasins automobiles et grandes surfaces. Ce n'est pas une grosse dépense, c'est simple à utiliser et c'est vraiment ce qui peut faire la différence entre une conduite sécuritaire et une conduite à risque. Fait-il valoir? C'était « De mauvais pneus ont coûté la vie à 28 Québécois depuis 2021 ». Un texte d'Amélie Pineda paru le 10 décembre 2024 dans Le Devoir.